Il est 17h34 minutes. On attend Éric Lantier, notre chroniqueur politique et social, qui va nous parler de la fermeture du bureau de la liberté de religion. Fermeture de la, du bureau de la liberté de religion. Et ça fait mal, là. Bon après-midi, mon cher ami Éric Lantier.
Bon après-midi, Monsieur Pierre.
Ça va bien?
Ah, oui, pour moi, ça va bien parce qu'en tant que bon chrétien, je vis dans la paix, je vis dans le confort, je vis dans l'abondance, mais ce ne sont pas tous mes frères chrétiens qui vivent cette liberté-là aujourd'hui.
Non, hein?
Mais non, écoutez, j'avais lu un rapport qui avait été publié dans le Journal de Montréal l'an dernier, et qu'on disait qu'il y avait 245 millions de chrétiens qui étaient persécutés. Et maintenant, ça a augmenté à 260 millions. Une augmentation de 15 millions, c'est énorme.
Alors, ils sont persécutés à travers le monde.
Oui, absolument.
Et persécutés à cause de leur foi.
Écoutez, savez-vous qu'est-ce qui m'a renversé? Moi, j'étais en Corée du Nord, et là, c'est Loïc Tassé, là, un journaliste du Journal de Montréal. Là. On parle pas d'un pasteur là fou, extrémiste, là. Non. Illuminé. On parle d'un journaliste crédible, qui est reconnu pour sa rigueur, qui dit qu'en Corée du Nord, toute personne surprise avec une Bible risque la peine de mort.
Oh là là!
Là écoutez, là. Moi, là, si je vois quelqu'un se promener avec une Bible là, dans la rue, là, j'irai pas appeler la police pour dire il y a une Bible ici au Québec, au Canada. Et c'est là que ça nous montre.
Mais, par contre.
Oui.
Si on est dans une salle de cours et qu'on voit une professeure donner son cours avec un signe ostentatoire. Hein? On appelle la police tout de suite. Hein? C'est de la persécution aussi, non? Même pas de Bible, là. Juste un turban, un mouchoir, un signe ostentatoire avec une croix au cou. On appelle la police.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai toujours prôné la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de rassemblement. Et pour moi, même si, par exemple, quelqu'un qui porte un voile ou un turban, ce n'est pas en ligne avec mes croyances, avec mes convictions. Je crois que la liberté prime sur nos différences et sur nos croyances.
Alors, dans les estimations de Mme Tassé, et certainement qu'on n'a pas mis en compte, on n'a pas pris en considération donc le nombre de personnes qui sont persécutées au Québec pour leur foi. Pas des chrétiens là, c'est pas des chrétiens, mais c'est des musulmans, des musulmanes plus précisément. Alors, je vous laisse aller quand même là pour ne pas vous détourner de votre regard sur les chrétiens, pauvres chrétiens menacés.
Oui, mais vous soulevez un point qui touche le Québec, et vous avez raison, mais si on regarde globalement l'ensemble de la planète, les chrétiens constituent 80% des personnes persécutées pour des motifs religieux. Alors, ça fait des chrétiens le groupe religieux le plus persécuté au monde. Ici, bon, les chrétiens, ils sont, je pourrais vous dire, on se moque un peu des chrétiens dans l'espace public. Et ceux qui vivent peut-être le plus de pression au Québec, ce sont définitivement les musulmans. Mais à travers le monde entier, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés. Moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est que en février 2013, Stephen Harper avait créé le Bureau de la liberté de religion et ça a été fermé par les libéraux en mars 2016, 3 années plus tard. Et sur quel prétexte ils ont voulu créer le Bureau des droits de la personne, des libertés et de l'inclusion. Et donc, on dilue, si on veut, l'effet.
C'est comme des objectifs très différents.
Oui, c'est des objectifs différents. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, OK, on va avoir 3 directions. une direction des affaires autochtones, une direction de la démocratie, puis une direction de l'inclusion et de la liberté de religion. Et la liberté de religion vient d'être diluée vraiment à son maximum. Alors qu'avant, il y avait un bureau avec un budget de 5 millions de dollars, avec un directeur pour défendre la liberté de religion au Canada et aussi devenir un ambassadeur du Canada pour la liberté de religion à travers le monde. Et là, on l'a inclus à travers différents droits. C'est pas mauvais, mais ça n'a pas autant de répercussions, pas autant, comme on dirait en bon latin, de punch, quand on a un bureau qui est consacré uniquement à cet effet.
Très honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse avoir besoin d'un bureau comme ça qui est là pour gérer les questions de liberté de religion. À part dénoncer quel est le pouvoir de ce bureau, est-ce que le bureau a un pouvoir de contraindre les gens à tolérer ceux qui pratiquent une religion différente? Non, je me demande qu'est-ce que ça mange en hiver? Quel est le pouvoir d'un tel bureau? Et je réponds tout de suite, aucun pouvoir.
Ben, disons que le pouvoir, c'est d'informer, le pouvoir, c'est d'alerter, de dénoncer, de prendre position en faveur de la liberté de religion, peu importe le type de religion, c'était et de justement amener des causes devant, par exemple, l'Organisation des Nations Unies ou devant des organisations de défense des droits pour que des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de leur foi à travers le monde puissent sentir un soutien, un support, qu'ils puissent avoir un lobbying qui s'exerce en faveur de la liberté de religion.
On ne peut pas être contre la vertu, Éric Lantier, mais lorsqu'on prend des mesures comme ça, en général, c'est parce qu'on croit qu'il y a des personnes en autorité, à défaut des personnes directement au pouvoir, qui peuvent persécuter des gens pour leur foi religieuse. Mais lorsqu'il s'agit d'exemple, ce qu'on a vu à Québec, mais c'est un pelé zéro tondu, n'est-ce pas, trois fois rien, oui, qui peuvent faire du tort, qui peuvent persécuter des gens pour la pratique d'une religion inconnue, deux, n'est-ce pas? Mais c'est jamais le gouvernement ici en Occident, hein? Jamais le gouvernement, jamais un groupe qui va être proche du pouvoir, comme on en a dans des pays. Exemple, en Corée du Nord, est-ce que ça surprend quelqu'un de savoir que quelqu'un qui marche avec une Bible peut être l'objet d'arrestation et peut même perdre sa vie? Non, ça ne nous surprend pas.
Mmh. Oui, non, ça, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, ce qui avait motivé l'ancien premier ministre Stephen Harper de créer ce bureau, c'est pour que le Canada ne reste plus silencieux devant l'intolérance religieuse dans plusieurs parties du monde. Donc, le problème, c'est qu'on peut regarder le train passer et dire « Ah, c'est donc dommage qu'il soit passé ». Et la motivation de M. Harper, c'était justement de dire « Non, on ne peut pas rester silencieux et on doit avoir un organisme qui dénonce ». Savez-vous, à travers le monde, il y a sensiblement les mêmes réactions.
Et là, je pose la question. Quand je regarde des organismes qui n'ont rien à voir avec l'État, mais qui sont des organismes, je dirais, privés, hein, mais dans la sphère publique, qui reçoivent des subventions pour faire un travail qui, quelquefois, déborde le cadre de la frontière d'un pays, Amnesty International. Hein. C'est pas une création gouvernementale, pas du tout, là, pas vrai? Hein? Et il y en a une Amnesty International un peu partout à travers le monde. Oui, Amnesty International va vivre de dons du public, va vivre de dons gouvernementaux, mais va dénoncer les abus. Est-ce qu'on avait besoin d'un bureau politique, d'un bureau nommé, créé par un gouvernement pour défendre la liberté de religion?
Ben, écoutez, oui, il y a d'autres organismes. Vous avez cité Amnesty International. Il y a aussi Porte Ouverte qui vient justement à la défense des chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Moi, je vous dirais que lorsqu'un bureau, qui est, je pourrais dire, une organisation paragouvernementale, une organisation d'État qui parle au nom du Canada et en faveur de la liberté de religion, ça a du poids parce que c'est attaché à la diplomatie canadienne. Et je peux vous dire que la même réaction a été sensiblement suscitée par Jeremy Hunt, qui était secrétaire aux affaires étrangères en 2019 en Grande-Bretagne. Et lui aussi blâme la rectitude politique ambiante qui est manifestée par un silence à l'endroit des persécutions des chrétiens. Et moi, que ce soit un organisme privé, que ce soit une OSBL, que ce soit une organisation paragouvernementale, pour moi, ce qui est important, c'est que nous, en tant que Nord-Américains, occidentaux, on puisse être conscients que la liberté qu'on a, même si on vit certaines restrictions à certains égards, la liberté qu'on a n'est pas un dû, c'est un privilège et on doit continuellement se battre pour la préserver parce que ce n'est pas un droit acquis. On le voit à travers le monde, des gens sont persécutés et n'ont même pas la liberté de pouvoir exprimer leur désaccord.
Et pour une fois, je suis en désaccord avec mon ami Éric Lantier. La manière dont ça a été exprimé, oui, c'est un droit qu'on a. C'est un droit, mais attention, c'est un droit qui peut être enlevé également. C'est peut-être
mais
c'est pas.
Mais c'est pour ça que, oui, je suis d'accord que sur le plan, je suis d'accord avec vous que sur le plan juridique, c'est un droit. C'est un droit, c'est dans les constitutions, l'ONU le déclare comme un droit. Mais moi, je le vis en tant qu'individu et citoyen comme un privilège parce que ce droit, dans plusieurs endroits dans le monde, est enlevé.
Alors, c'est ça, c'est là où ça fait problème. C'est parce qu'on considère la chose comme un privilège, justement. Votre permis de conduire est un privilège, ce n'est pas un droit. On peut vous enlever votre permis de conduire à tout moment. Mais le droit d'exercer ma religion est un droit fondamental enchâssé dans la Constitution. On ne peut pas m'enlever ce droit. Et c'est pour ça qu'on devrait tout le monde travailler, si on reste dans la religion ou au niveau du droit de pratiquer ou la liberté de religion, qu'on doit tout le monde travailler dans le même sens pour que oui, ça reste un droit qu'on ne change pas, comme vous l'avez dit, comme si c'était un privilège, qu'on en fasse un privilège, mais bien un droit. On ne peut pas m'enlever la vie, j'ai le droit à la vie. J'ai le droit à la liberté d'expression, à la liberté de pratiquer ma religion. C'est okay, des droits, ça, là.
Oui, bien, OK. Je vais le reformuler d'une autre façon. Oui. Convaincu qu'on va s'entendre.
On va s'entendre, surtout qu'on est vendredi.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est un droit fondamental. Je suis d'accord avec vous.
Voilà.
Mais c'est un privilège en tant que d'être né au Canada,
voilà,
de pouvoir exercer ce droit.
Voilà.
Bon.
Et
on s'entend là-dessus.
On s'entend. Et nous, comme nous sommes conscients que dans beaucoup de coins à travers le monde, le droit d'exercer sa religion, le droit d'exercer son libre arbitre, le droit de porter la parole, la liberté de dire ce qu'on pense des êtres et des choses, n'est-ce pas, sont traités comme des privilèges. Donc, nous devons nous battre pour que ça soit un droit partout à travers le monde, n'est-ce pas?
Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, c'était plus l'aspect que je me voyais comme privilégié de pouvoir exercer Absolument. Ce droit fondamental.
Ouais.
Je me sens privilégié parce que, justement, ce droit est bafoué en Corée du Nord, est bafoué dans plein d'endroits,
parce que,
en Afrique, au Moyen-Orient, et c'est déplorable.
Éric, voilà un autre droit fondamental. Le droit à la vie, le droit à avoir un repas, au moins un repas par jour, d'avoir un toit sur la tête, c'est des droits, ça là, c'est des droits et des droits fondamentaux. Et puis il y a énormément de gens à travers le monde qui n'ont pas ce droit là.
Mm-hmm.
Mais et pourtant c'est des gens comme vous et moi. Ils ont tout simplement le malheur de vivre dans un autre endroit de la planète et ne peuvent donc pas exercer. On leur dit qu'ils n'ont pas, on ne leur dit pas qu'ils n'ont pas de droit à avoir la santé, à etc., etc., un toit sur la tête, d'envoyer leurs enfants à l'école, sauf que ils constatent que ils ne peuvent pas exercer ce droit. Alors donc, autant pour la liberté de religion, qui est un droit, je vous l'accorde, mais qui passe quand même après le droit à la vie, le droit à donner, envoyer ses enfants à l'école, etc., le droit à des soins de santé, ça passe, tous ces droits-là passent avant, hein. Ensuite, on va défendre le droit de la religion, pas vrai?
Oui, mais savez-vous quoi? Il y a une question qui est fondamentale, et c'est pour ça que je suis en accord avec vous. C'est un droit, parce que ce qu'il y a de plus précieux dans un être humain, c'est sa conscience.
Ouais.
Parce que si je suis pas capable de vivre en paix dans ma conscience, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être 100% fonctionnel. Et c'est pour ça que je crois que la liberté de religion est un droit fondamental. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les humains qui ont le privilège de pouvoir exercer ce droit, vivre ce droit, de pouvoir exprimer leur idée, leur conviction, débattre. Comment on le fait? On est capable, dans une atmosphère conviviale, d'échanger, de débattre, de critiquer. Et il y a des gens à travers le monde qui ne peuvent pas exercer ce droit. Et c'est pour ça que je me sens privilégié de vivre dans un pays comme ça. Et j'étais déçu lorsqu'on a transformé le Bureau de la liberté de religion, parce que je me suis dit, il y a des gens à travers le monde qui vont être perdants de cette opération-là.
Mais toute bagaille va bien, l'accueil
pas pour moi, l'accueil pas pour moi,
l'accueil. Merci Éric Lantier. Merci mon cher ami. On se reparle la semaine prochaine, lundi.
Oui, lundi et dimanche.
Lundi et dimanche.
Si bon Dieu voulait, moi, je vais être à l'église en train de célébrer ma foi.
Si bon Dieu voulait.
Oui.
Merci, Éric.
Au plaisir.
Bye bye, bye bye. Il est 17h53. On s'en va un dernier tour à la circulation, à la météo.